Merci Seigneur, gloire à Jésus. Seigneur, je te prie que tu me donnes les bonnes paroles, que tu me donnes de quoi nourrir, Seigneur, ton peuple, et qu'il y ait quelque chose qui puisse être aligné à ta volonté, qui soit dit, qui soit recueilli par chacun, par les cœurs ce matin, qu'il ne reparte pas sans avoir été alimenté, sans avoir reçu quelque chose, Seigneur, selon ta volonté. Merci Jésus. Amen. Alors, quand Alain m'a demandé de préparer quelque chose, j'ai dit en moi-même, pourquoi moi, déjà. Et puis après, je me suis tourné vers Dieu, quoi. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il va falloir que j'apporte? Qu'est-ce que tu veux que j'amène? Et puis, il m'a dit ça. Il m'a dit, quels effets ont eu sur toi les épreuves de tes enfants? Alors, je ne vais pas tout vous développer les épreuves de mes enfants, parce qu'il y en a pour 22 ans, de résumé. oui, parce qu'il y a 22 ans dans quelques jours, Maxime, donc ça a commencé assez vite. Par contre, du coup, à partir du moment où il m'a donné ça, il y a plein de choses qui sont venues. Donc, je vais essayer de vous partager et de vous exhorter. Alors, à votre avis, est-ce que les épreuves de mes enfants, qu'est-ce que ça a pu m'apporter? On a des effets dignes d'Hollywood. Hein. On a un PowerPoint magnifique. Comme ça, si c'est pas bien, c'est à cause du PowerPoint. Si c'est bien, c'est grâce à Dieu. Quels sont les effets? Alors, à votre avis, je pense avoir une meilleure compréhension de comment cheminer en tant qu'enfant de Dieu, sur les années que nous passons sur cette terre, les uns avec les autres. Et voilà, on va essayer de nous apporter quelque chose. Voilà, donc, Alain m'avait dit aussi, message d'exhortation, c'est ma prière, hein, c'est que ça vous apporte quelque chose. Et je vais essayer de vous distiller des petits versets au fur et à mesure de mes propos pour que ce soit cohérent, aligné avec la parole et qu'on ne soit pas sur du folklore. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Vous savez ça dans 1 Thessaloniciens 5:11. Alors, au début de ma vie chrétienne, au début, Dieu s'est révélé à moi et j'étais dans un état de joie incroyable. Waouh, Dieu existe. Moi, c'était une révélation de fou, en fait. Déjà que Dieu existe. Voilà. Donc, j'ai marché comme ça avec Dieu existe pendant 8 mois à peu près. J'avais jamais entendu parler. Enfin, j'avais pas entendu Jésus, hein, le Sauveur. J'avais juste entendu Dieu existe. Et déjà ça, j'avais donné ma vie à Dieu, quoi. Puis après, y a tout le message de Jésus qui est arrivé et que j'ai compris. Donc voilà, je me retrouvais devant cette... j'ai mis des illustrations au fur et à mesure. Vous avez quelqu'un qui fait des bandes dessinées, un chrétien suisse qui s'appelle Alain Oderset, qui fait des magnifiques bandes dessinées, qui fait des dessins qui, moi, me parlent. Je sais que ça ne parle pas à tout le monde. Ça ne parle pas trop à Alain. Mais moi, ça me parle. Et voilà, je me retrouve devant, ça y est. Ça y est, il y a la vie devant moi, donc je vais pouvoir avancer quoi, dans cette vie. Mais du coup, au début, c'est formidable. Et puis rapidement, on a des fausses croyances qui arrivent. En fait, rapidement, on se voit comme un super-héros. Donc ça, c'est ma vision de moi, hein, avec des ailes magnifiques, un super-héros. Mais évidemment, on développe des fausses croyances. Alors, excusez-moi, je me rends compte que ça n'a pas du tout fait ce que je voulais. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Est-ce que vous allez l'avoir? Oui. Parce que j'ai des notes quand même. Et si je ne vois pas mes notes... Voilà, donc dans mes fausses croyances, qu'est-ce qu'il y avait? Au début, je me suis dit qu'un chrétien était sauvé, donc il était Superman, quoi. Il n'était jamais malade, il n'avait jamais de souffrance. Enfin, voilà, on est roi du monde, quoi. Hein. C'est formidable. Merci d'acquiescer, Christine, donc on s'est bien planté. Grosso modo, Je tombe de mon piédestal, je comprends que je ne peux pas tout faire, alors que je voulais m'occuper de tout, je comprends pas que je dois rester dans le monde, je pensais qu'il fallait que je me sépare du monde, que je sois sain, que je sois pas parmi les gens qui font pas des choses correctes, etc. etc. Et ce que je viens de vous dire, hein, forcément, mon prochain, c'est un chrétien, quoi. Donc, je me voyais un peu comme ça. Voilà, super patate, c'était moi. Donc, bah non, en fait, pour de vrai, on tombe de son piédestal. Dieu nous dit gentiment, je vais te désosser tranquillement, hein, tu vas diminuer, je vais grandir, et puis je vais t'apprendre au fur et à mesure. Donc, ok. On commence la marche chrétienne. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'on participe aux souffrances de Christ. Waouh, ça a été un peu compliqué. Moi, je sais que une de mes prières, très longtemps, c'était « Épargne-moi la souffrance ». Bah oui, parce que j'avais eu un problème de santé assez rapidement au début de ma vie chrétienne. J'ai encore un traitement pour ça aujourd'hui. Et quand on commence à avoir mal pendant des mois, on a tendance à vouloir plus avoir mal, quoi, grosso modo. Donc voilà, c'était un peu un réflexe. Mais oui, mais non. Donc on ne comprend pas tout, mais on apprend à remettre tout dans les mains de Dieu, progressivement. On comprend qu'on ne peut rien faire par soi-même. Qu'on peut demander par contre tout à Dieu, et que c'est lui qui nous dirige, qui nous manage. On passe par un processus de régression sainte. Il faut que je diminue, il faut qu'il grandisse. C'est biblique aussi. Celle-là n'était pas facile. Comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Accepter en fait, hein, qu'on ne peut pas tout comprendre, accepter que bah, dans le quotidien de la vie, il y a des choses par lesquelles on va passer et qu'on ne va pas comprendre. Elle nous a partagé ça, Olivia, il y a quelques semaines, hein, il y a deux semaines. C'est une réalité. Hein. Je ne suis pas bien, je suis en PLS, je suis en crise d'angoisse, j'ai peur de ça. Seigneur, délivre-moi. Ah oui, mais bon. Et puis, comprendre qu'on a la grâce. C'est-à-dire que dans tout ça, c'est la grâce qui est notre plancher et on peut marcher sur la grâce et on peut être libre malgré tout ça. Voilà ce que j'ai réalisé progressivement. Alors, j'ai développé quelques petits points et le premier, c'est j'avais beaucoup aimé le message de notre sœur Olivia, qui est ma fille aussi, c'est super. Il faudrait qu'on redevienne comme des petits-enfants. Il est beau, hein ? Cet âge-là, on a confiance. Hein, on ne se prend pas trop la tête. Savoir si on va avoir à manger le soir, hein, ou les habits qu'on va porter, on s'en fiche un peu, parce que de toute façon, ils arrivent tout seuls, puis on se fait habiller même à cet âge-là. Donc, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, donc il y a plein de traductions, hein, mais c'est changer radicalement, enfin intérieurement, de comment on se comporte, et puis se repentir. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, Lydia nous avait expliqué que les petits-enfants, c'était une tranche d'âge comme ça, hein, justement, où on a confiance en tout, et vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ah, bon, la foi, quoi, en fait, hein. La foi dans la grâce de Dieu. Donc, je vous l'ai dit, hein, il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue, Jean 3, 30. Alors, du coup, à partir de tout ça, je vous ai préparé 5 points qui m'ont fait avancer sur voilà, ma façon de vivre ma vie d'enfant de Dieu. Voilà, par rapport à l'impuissance, à la souffrance, à l'acceptation, à la grâce. Et puis, je vais conclure par rapport au corps de Christ, on en a déjà parlé. Isabelle a parlé du puzzle et en fait, quand elle a parlé du puzzle, il y a quelques semaines, j'ai fait « Ah, c'est ce que je voulais dire !» Après, quand Pierre-Antoine, il y a deux semaines, a parlé d'authenticité, j'ai fait « Ah, c'est ce que je voulais dire !» etc., etc. Donc en fait, je vais vous redire des trucs que vous avez entendus, mais c'est pas grave, il y a des gens qui étaient pas là, donc c'est super, et puis c'est une autre façon d'apporter les choses. Alors, être. On a un grand potier, on est en construction, on est un vase. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette impuissance? Parce qu'au début, je pensais que je pouvais tout faire, mais j'avais oublié qu'il fallait que je sois, surtout. Ça m'a un peu libéré, ça, les différences entre faire et être. Je vous le dis, c'est une clé, moi, ça m'a vachement aidé. Hein. Parce qu'il y a un verset qui, moi, me faisait hyper culpabiliser, en fait, c'était celui-là. Allez chez tous les peuples. Alors, j'ai pris des versions de Bible un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de lire, un peu exprès aussi. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Et du coup, au début, on entend ça et on se dit, bon, bah, on va y aller, quoi. On va faire plein de choses pour notre Seigneur, parce qu'il nous demande de faire des trucs comme ça, et puis il faut y aller, il faut se donner plein les moyens. Et puis, ça me faisait penser à des gens qui prenaient une Bible, qui tapaient sur la tête à des gens qui n'étaient pas croyants, puis qui disaient, c'est la vérité. Bah, ça n'a jamais marché, cette méthode. Donc, on prend quoi comme méthode? Enfin, je veux dire, c'est quoi notre approche pour expliquer à des personnes qui sont autour de nous que ben, on a un Dieu qui nous aime, on a un Dieu qui nous a graciés, on a un Dieu qui nous permet de nous approcher de lui. Moi, à ce moment-là, voilà, je l'ai mis, je l'ai écrit noir sur blanc, je m'estimais tellement chanceux, gracié, voir la vérité, c'est formidable, que l'évocation de « je croise tout le temps, vous aussi, au travail, dans nos voisins, les gens qui ne sont pas sauvés, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu ou qui ont un autre Dieu, peu importe, que c'était insupportable. Enfin, ça reste quelque chose qui, en moi, a été longtemps insupportable. Et puis, alors, c'est ma théologie, hein, comme dirait Marie-Jo, hein, chacun sa théologie. Je pense que Dieu m'a permis aussi de moins le porter, que ce soit moins insupportable. Mais pour revenir à ce que je disais par rapport à ce verset, ben j'entreprenais des actions pour, entre guillemets, évangéliser, c'est-à-dire partager, témoigner, partager. Donc pas forcément toujours très très bonne. Donc ma mauvaise compréhension, c'est que je voulais être dans la performance, il y a une sorte de système de petits points, j'ai 10 points, hop, j'ai gagné une image, 3 images, hop, 2 étages plus haut dans le paradis, enfin, je fais n'importe quoi, hein, mais c'était un peu ma vision des choses, et je pensais qu'il y avait des récompenses. Alors oui, il y a des récompenses, mais j'avais une mauvaise interprétation des choses. Parce que je pensais que, bah, parce que les gens allaient se convertir grâce à moi, pas compris, hein, c'est Dieu hein, qui convainc, on est d'accord, hein, c'est le Saint-Esprit, et ben, j'allais faire plaisir à Dieu. Et ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que Dieu soit devant moi. Donc, je me voyais un peu comme ça. Vous avez vu, il y a une petite différence. On a des animations de lignes d'Hollywood. Hein, ce matin, on a des auréoles qui apparaissent. Alors, un verset qui est important, moi qui m'a permis de comprendre autre chose, Jésus nous dit, lors de son repas, la Sainte-Seine, avec ses disciples, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais, quand il prie le Père par rapport à ses disciples. Moi, au début, je pensais, ma mauvaise compréhension faisait que je pensais que j'étais sorti du monde, en fait. Et j'allais finir ma vie en supportant les gens et en attendant la fin de la vie. Ben non. On était bien dans le monde, et puis il va falloir que tu sois une lumière, et puis il va falloir que tu sois sel, et puis il va falloir que tu imprègnes les gens plutôt. Il va falloir que si tu sois un phare, tu es un ambassadeur de Christ. Et comme je disais, il n'y avait pas forcément des bonnes pensées, il y a des mauvaises méthodes qui étaient là. Et il y a alors je ne sais pas si ça va bien se voir, mais c'est pas grave, je vais vous le lire. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai pris de Twitter. Maintenant, ça s'appelle X, qui était par rapport au syndrome du nouveau converti. Je me suis posé pas mal de questions aussi sur notre vocabulaire. On a du vocabulaire, mais syndrome du nouveau converti, finalement, je ne suis pas sûr que ce soit dans la Bible. Vous me direz hein, si vous le trouvez, mais Et alors ça marche, ça écrit, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, le syndrome du nouveau converti, l'excès de zèle, ils sont maladroits, ils pensent qu'être connecté avec le Seigneur, c'est forcément se couper du monde, repousser les autres, marcher qu'avec les gens de l'Église, etc. Et puis tu as une personne qui répond, je me questionne vraiment parce que toutes les nouvelles chrétiennes que je connais sont comme elles. Est-ce que la religion, c'est mettre les gens de côté parce qu'on est soi-même saint? Je ne comprends pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'échange sur les réseaux sociaux. Hein. Donc cette incompréhension, je me suis dit, bah, déjà, je ne suis pas le seul à m'être trompé, à avoir fait des erreurs. Les jeunes aussi s'interrogent et les jeunes aussi peuvent faire des mauvaises interprétations. Donc, on est dans le monde. On n'est pas retiré du monde, on doit influencer le monde et on doit y aller avec, avec esprit de sagesse, en fait. Donc, pas faire, mais être. Alors, être quoi? Être un disciple. Je dois devenir un disciple. Et moi, j'aime bien cette image que Jésus doit être devant moi, en fait, quand je vais quelque part. Et alors, on a plusieurs exemples hein, de être un disciple. C'est quoi être un disciple? Ben, ça commence par être un élève. Vous avez peut-être en tête cette scène où Jésus dit à Marthe qu'elle s'inquiète et qu'elle s'agite pour beaucoup de choses. Il y a peu de choses qui sont vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Donc là, on parle, à mon avis, hein, de l'enseignement que Jésus apportait à ce moment-là aux personnes qui étaient présentes. C'est ça, être un disciple, être un enfant de Dieu. Ça commence par écouter, essayer de comprendre donc, la parole, la prière. C'est aussi, ça c'est notre cher Alain Baptiste qui m'avait dit ça, être une lettre, ça m'avait beaucoup influencé. Être une lettre. Je suis une lettre ouverte en fait. Alors, pareil, hein, pour essayer de ne pas dire n'importe quoi, je m'appuie sur la parole, donc vous avez ça dans 2 Corinthiens. 3:3, il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Donc, quand Paul a été évangélisé, ils sont devenus sa lettre de recommandation. Donc on est des lettres, on doit être lu par le monde. Quand on se balade comme ça, à travers notre travail, notre voisinage, dans, je sais pas moi, la caisse d'un magasin, notre comportement doit être lisible. Enfin, moi, c'est mon interprétation des choses. Donc être un élève, être une lettre, et je peux faire ça parce que je suis un disciple. Donc parce que j'essaye, je veux dire, d'obéir aussi. Hein. On avance hein, progressivement avec le Seigneur, pas à pas, jour après jour, on essaye d'être un disciple. Et on peut être un disciple bah, parce qu'on a un Dieu qui s'est fait serviteur, qui nous a montré le modèle. C'est-à-dire, vous l'avez là. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Hein. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi, de Moïse et des prophètes. Dieu est un roi serviteur. Jésus est un roi serviteur. Il nous a montré qu'on pouvait servir comme lui a servi. Il nous a montré que si lui il avait souffert, on allait souffrir. Que si lui servait, on allait servir. Donc, on y va. Mais on y va avec lui devant. Ça, c'était pour le être, pour la souffrance. Attention, animation de fou, je vous préviens, j'étais prévenu. Merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas compris, et une de mes prières, c'était épargne-moi la souffrance. Mais on a Jean 14, je crois, qui dit Jésus me dit je suis le chemin. La vérité et la vie. Alors, dans ça, il y a le chemin. Donc, le Saint-Esprit m'a montré que je pouvais dessiner des lettres comme ça de Jésus, puis il y a un petit chemin. Je ne sais pas si vous voyez, hein, on passe du J au E, du E au S, du S au U. Vous voyez le petit chemin? Oui, vous voyez le petit chemin. Donc, peut-être que moi, je pensais que le chemin le plus direct, hein, c'était ça, pour arriver au bon chemin. Et puis, comme il n'y a pas de hasard, j'étais dans les Proverbes cette semaine, et puis je vois ça. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Pas de pouf. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Je dis pas, merci Seigneur, je vous dis, Dieu donne hein, au fur et à mesure qu'on avance. Bon, bah d'accord, alors c'est quoi? C'est quoi le chemin du coup? Bah, peut-être que c'était ça le chemin par lequel Dieu voulait que je passe. Non, ça vous parle pas? Vous faites des détours? Ouais. Je suis pas le seul. Donc, voilà, on se cogne. On ne trouve pas le bon chemin du premier coup. Hollywood. La vie est dans le sentier de la justice. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Dans le sentier de la justice, il n'y a pas la mort. Dans tous les trucs qu'on fait, les détours, les machins, trucs, c'est pour notre bien. C'est parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. C'est parce que si on n'était pas passé par là, qu'on n'avait pas eu cette expérience-là, on n'aurait pas compris tel truc. Et ça ne nous aurait pas équipé pour tel truc d'après. Voilà, je pense. Parce que moi, on m'avait dit ça. On m'avait dit, non, mais un chrétien, il ne souffre pas. Hein. C'est pas la volonté de Dieu que tu souffres là. Je l'avais entendu. J'étais Alain, témoin dans un boulot qui n'allait pas, qui me faisait devenir fou. Et j'avais croisé une sœur qui m'avait dit ça. Et ça ne sonnait pas juste dans ma tête. Alors voilà, c'était bienveillant de sa part, hein, mais ce n'était pas, comme dirait Maxime, canonique. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit Pierre? Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme si vous aviez quelque chose d'anormal. Pas facile, hein, la Bible, hein, des fois. Hein. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ. Ah, encore plus compliqué. Afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. Donc on voit qu'il y a un processus. Continuons sur le processus. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune mesure entre les communes mesures, donc comparaison, entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Waouh! Je pense pas que j'ai réalisé encore hein, ce verset du tout, mais ça aide bien. Si je résumerais à ma façon, je dirais que tout ce que je passe, tout ce par quoi je passe, toutes les choses compliquées, tout ça, en une fraction de seconde, ce sera tellement oublié, tellement écrasé par la gloire de Dieu et par le bonheur, la joie qui sera la nôtre plus tard, que ben voilà, c'est rien quoi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas facile, hein. Ça veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous accompagne pas au fur et à mesure de nos souffrances sur cette terre, bien au contraire. Et puis on se rend compte que il y a ce verset aussi, qui est pas des moindres, à mon avis. Le Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai, mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. Waouh! Ça me fait penser que je ne comprends pas tout de Dieu. Vraiment pas. Mais c'est marqué. Et comme je crois que c'est la vérité, parce que c'est la parole, donc c'est vrai. Donc ça veut dire que Dieu, le Fils, a dû apprendre par ses souffrances dans son corps d'homme. C'est mon interprétation. Pierre continue à nous dire, vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, qui donc a appris la souffrance. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Donc ça veut dire quoi dans mon propos, ça? Ça veut dire que, comme je disais, j'aime bien avoir l'image de Jésus devant moi, mais quand j'ai l'image de la croix aussi devant moi, ben, j'ai l'image de sa souffrance aussi. Donc, moi, souvent, quand je passe par des trucs difficiles, je me dis, bon, Christ a souffert à la croix. C'est un peu. Enfin, je ne veux pas diminuer la souffrance qu'il a eue, mais ça m'aide, en fait, à passer par une souffrance. Et dans tout ça, et c'est assez récent, eh ben on essaye d'avoir la paix. Dans mon chemin à moi, c'est récent. Il fallait que je vous dise tout ça aussi pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Ah, Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, hein. Dieu est victorieux. Dieu est devant moi, il est victorieux, il est mon rocher. J'essaye d'avoir la paix dans l'épreuve, dans la souffrance. Donc, voilà ce que je sais. Du coup, voilà ce que j'en conclue pour l'instant sur la partie souffrance. Moi, je suis dans la barque. Jésus dans le bateau. Bon, à part que, par rapport à la chanson, moi, je suis le petit enfant, là. Bon, je suis dans une barque en bois, pas forcément très, très solide. Puis, je vois pas trop où on va. Puis, je vois qu'il y a des vagues autour. Mais je suis dans la barque et Jésus est avec moi. C'est mon ami. Il me veut du bien. C'est mon Dieu. C'est mon roi. Mon sauveur. C'est mon Seigneur. C'est tout ça. Passons à la grâce. Sa main tendue. Son amour inconditionnel que je ne comprends pas. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne comprenais pas tout. Bon, j'ai essayé de faire un schéma qui... Je parlais de méthode d'évangélisation et il ne faut pas se renier en fait. On est tous différents, donc on reçoit tous des choses à notre façon et on a tous des façons de vouloir évangéliser. Moi, c'est un peu ma façon dont Dieu m'a fabriqué, c'est que je synthétise les choses. Je prends l'essence, le nectar, le machin, le truc, et à la fin, il y a juste trois petites gouttes. Si on devait résumer les choses en trois phrases, voilà. Dieu, grâce à ce qu'il a fait, m'apporte la grâce, à moi d'accepter. Moi, grâce à la foi, j'accepte la grâce, hop, je suis sauvé, avec la repentance au milieu. C'est en fait une méthode pour évangéliser en 3 secondes, parce que moi, des fois, au boulot, j'ai 1 minute 30 pour parler. Je l'ai eu jeudi, là. Je me dis, comment je vais faire, Seigneur ? Tu me demandes de témoigner, là, tac, j'ai 1 minute 30. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Si jamais on avait oublié ce verset-là, acceptez la grâce. Et parce que vous croyez. Donc, il y a la bonté de Dieu, mais elle est pour tout le monde. Hein. Pour les gens dehors, pour les criminels. La bonté de Dieu, elle est pour tout le monde. Hein. Après, il y a la foi, il y a notre part à faire. Hein. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui donne le salut. C'est Dieu qui donne le salut. Donc ça, c'est universel, hein. C'est pour tout le monde, est-ce qu'on est d'accord ? Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que je dis, mais ce serait bien que vous disiez « Ouais, je suis d'accord. » Ah, merci. Ouais, mais là, c'est trop facile, t'es ma fille, tout ça, on a répété avant. Que faire de cet amour ? Que faire, comment accepter cet amour inconditionnel ? Il y a des personnes... que ça bloque cet amour inconditionnel, qui disent « Non, il faut que je fasse pour être sauvé. » Il y a plein de gens qui vivent une religion où ça va être la balance à la fin de leur vie qui va faire que s'il y a plus de bonnes actions que de mauvaises actions, bah, ils iront au bon endroit. Ou ils espèrent ne pas être incarnés en une chaise, par exemple. Mais nous, on a autre chose comme pensée. Mais que faire de cet amour ? Comment accepter cette grâce ? Est-ce que c'est juste l'amour inconditionnel de Dieu ou est-ce que c'est injuste ? Il y a une chanson que Mélissa a prise à son baptême, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Gwen Dresser, qui dit « Dans son amour injuste, il m'a sauvé. » Moi, je ne comprenais rien à cette chanson. Elle était très belle, hein, je ne comprenais pas. Puis bah, j'ai la chance d'avoir des enfants qui me maintiennent dans une ouverture d'esprit. Parce que c'est ça aussi le message. Hein. Qu'est-ce que fait que les épreuves de tes enfants t'ont apporté ? Ben, ils m'ont apporté beaucoup d'ouverture d'esprit sur la vie en général. Et j'ai échangé avec Olivia et elle m'a fait comprendre que, ben oui, en fait, l'amour de Dieu était injuste, en fait. Pourquoi moi, je suis sauvé ? Pourquoi pas mon voisin qui est 3 fois meilleur que moi sur plein de trucs ? Quels les gens qui... J'ai pas la réponse. Hein. On a dit plein de versets où j'avais pas la réponse, je comprenais pas tout. Mais moi, j'ai accepté. La grâce de Dieu, ouf, je suis heureux d'avoir accepté la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais de cet amour? Je l'accepte, moi je l'accepte. Et puis j'apprends à le découvrir au fur et à mesure. Mais pour qu'on puisse un peu réaliser qu'on ne comprend rien, enfin en partie, on comprend des morceaux qu'on doit comprendre à l'instant T de notre existence, il y a un verset, enfin des versets, mais il y en a un particulier. Et puis j'ai essayé de vous afficher une image du cosmos là, avec plein de galaxies, avec l'infiniment grand que Dieu a créé, puis il y a l'infiniment petit aussi qu'on ne voit pas, où il y a une multitude de vies, et nous on est un peu entre les deux. Ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Pof. Vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Pof aussi, double pof. Moi, ça me rassure en fait. Non ? Ça ne vous rassure pas que vous ne compreniez pas tout ? En fait, moi, ça m'a rassuré de ne pas tout comprendre. Je me suis dit, quand Jésus il dit « Bienheureux ceux qui ne comprennent pas tout », je paraphrase, mais c'est ça que ça veut dire, hein, faible. Ceux qui n'ont pas toute la science, hein, qui se reconnaissent, qui ont l'humilité de se reconnaître comme étant des gens qui ne savent pas tout. Mais ça fait du bien de ne pas tout savoir. Hein. Ouf. Moi, plus j'en sais, et puis plus je suis content quand je ne sais pas un truc. Un dadoun, c'est vrai. D'ailleurs, il y a plus d'étoiles ou plus de grains de sable quand il dit à Abraham, regarde les étoiles, compte les grains de sable. Vous savez s'il y a plus d'étoiles ou de grains de sable ? Moi, j'ai lu un truc qui disait qu'il y avait plus d'étoiles. J'aurais jamais cru. Ça vous donne une idée. Hein. Donc, je ne peux pas tout comprendre. Donc, je me retrouve un peu... Ah, on ne le voit pas. Zut. Si, on le voit un peu. Vous voyez où je suis, là ? Sur le nuage ? Dans une position précaire, en équilibre sur ma compréhension des choses. Ouais, je suis là, moi, dans... un peu trop perché. Des fois, ce serait bien que j'ai un peu plus les pieds sur terre. Je suis là et je ne peux pas tout comprendre. Donc, j'en suis dans cet état de compréhension-là. Et je sais une chose. Et là, patapouf. Dieu est mon roi. Dieu est souverain. Voilà. Donc, j'adore cette image du roi. Une blague, moi j'aime bien la faire, c'est Dieu, il est de gauche ou de droite ? Ben, il est royaliste, hein, il est roi. Donc, on s'en fout. En fait, il y a des gens qui ont des très bonnes idées, ils sont de gauche, il y a des gens qui ont des très bonnes idées, ils sont de droite, on s'en fout. C'est le cœur qui compte aux yeux de Dieu. On est d'accord ou pas ? C'est le cœur qui compte aux yeux de Dieu. Donc, Dieu est roi. Et c'est un bon roi. C'est pas un roi comme nous, on a eu pendant quelques milliers d'années sur cette terre où finalement le roi était plus un tyran souvent que quelqu'un qui se donnait pour son peuple. Nous on a un roi qui est mort pour nous. Bon, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour, hein, nous dit la parole, que ça. Donc moi je suis là, je veux ma couronne. Moi je veux ma couronne. Hein. Vous n'avez pas l'air de vouloir votre couronne. Vous l'avez déjà peut-être. Vous êtes peut-être déjà convaincu que vous l'avez. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, ça n'a pas marché comme je voulais, mon animation. Ah, c'est un bug, je ne sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? Alors, accepter le cycle du régime de la grâce. Le régime de la grâce, avant on avait le régime de la loi, après on avait le régime de la grâce. Pour faire simple, pour moi, à mes yeux, le régime de la loi, c'est... tu feras pas ça, tu feras pas ça, tu feras pas ça. Pour faire très simple, hein, je vous ai dit, hein, je tordais, je pressurisais, tu convoiteras pas, tu machin. En fait, plus on nous dit de pas faire, et puis on est comme des enfants, quoi. Hein. Tu toucheras pas la plaque de gaz qui est brûlante, parce que sinon ta peau elle va rester dessus. Pchut. Allez, on fait le 18 et on va aux urgences. On est d'accord, on a déjà vécu ce genre de soucis. Un enfant, si vous lui dites tu feras pas ça. Alors que la grâce, finalement, il nous dit quoi ? Jésus nous dit d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Donc d'aimer Dieu, d'abord, et l'autre commandement qui est égal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh ! Donc c'est plus l'action que l'interdiction, finalement. Ça nous encourage être dans une démarche de « je vais faire ce que je peux ». Et donc, le régime de la grâce, il y a la grâce, donc, comme je disais tout à l'heure, la grâce qui est donnée. Après, moi, j'ai la foi pour récupérer cette grâce qui est donnée. Et donc, ça s'appelle la justice de Dieu. Waouh, moi, je ne comprenais pas la justice au début de ma conversion. On parlait de la justice de Dieu tout le temps dans les cultes. Je dis là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il a décidé que c'était ça la justice de Dieu, en fait. Que si on croyait en se repentant, et bien qu'on était sauvés. Waouh! Scandale pour beaucoup. Si on obéit, mais on aura des phases de repentance, hein, forcément, parce que ben, on est des êtres humains sur cette terre avec nos défauts. Et bien si on se repent, ben, Dieu nous fait grâce. On a la foi qui nous fait grâce. Donc on est justifié. Amen. Tchac. C'est bon, ça, hein? Enfin, moi, ça me fait du bien. Hein? Je me fais du bien moi-même ce matin. Donc, que me reste-t-il à faire? Hop. Je reviens là-dessus. Est-ce que vous avez entendu parler de la persona? Qu'est-ce que la persona? Si vous étiez anglais, ce serait dans votre langage de tous les jours. La persona, c'est la façon dont on se comporte quand on va au travail, quand on va à l'église, quand on est en repas de famille. En fait, c'est ce qu'on voudrait montrer un peu, c'est le masque. Et on a des personas. Moi, je travaille dans le milieu de la technique informatique et il y a des tas de choses où il y a des personas. C'est pour représenter des rôles d'utilisateurs de certains trucs. Donc, si j'étais un utilisateur, si j'étais un responsable, si j'étais un manager, si j'étais un... Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on veut montrer? Et le mot persona, il vient d'un mot latin, personare, j'ai noté, hein, parler à travers. Vous prenez un masque, et c'est ce que faisaient les acteurs de théâtre avant. Ils parlaient à travers le masque, donc ils représentaient, ils jouaient un rôle, si vous voulez. Ah, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je devais faire, plutôt que d'être quelqu'un, le Romain qui va à l'église, et puis le Romain qui va au travail, et puis le Romain qui rentre chez lui, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois le Romain enfant de Dieu, et puis c'est tout. Donc, c'est là où le fameux mot authenticité arrive dans ce que je vous dis. C'est être authentique, pas vouloir ressembler à un tel parce qu'il a un ministère de trucs ou à un tel parce qu'il est super intelligent. Non, Dieu m'a équipé comme je suis moi aujourd'hui, pièce du puzzle unique, en mon genre. On est tous des pièces de puzzle unique. La bonne nouvelle, c'est qu'on va former un puzzle magnifique, ensemble. Tu n'arrives à s'imbriquer. Et donc, ce qu'il me reste à faire, ben, c'est accepter le joug. Vous avez reconnu un joug? C'est un joug. Ça vous parle dans la parole? Quand Dieu nous dit, prenez mon joug qui est doux et léger. Donc, c'est lui hein, qui porte le joug. Hein. Le joug, il n'est pas là pour nous écraser. Merci Marie-Jo de nous avoir révélé ça par rapport à ton voyage en Roumanie. Il n'est pas là pour nous écraser, il est là pour nous guider, pour qu'on reste près de Jésus, pour qu'on ne s'éloigne pas. C'est, en fait, c'est la même chose que la brebis égarée. Reste vers moi, ma chère brebis. Je te laisserai pas partir loin de moi. Le bon roi prend soin de ses sujets, le berger prend soin de ses brebis, j'ai noté. C'est ça. De ce fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à vivre avec de l'authenticité. Et l'authenticité, alors là, je vais commencer peut-être à gratter un peu, elle n'est pas que par rapport à moi, à l'intérieur du monde, du travail ou autre, hein, elle est aussi par rapport aux chrétiens dans le milieu évangélique. Hein. On a beaucoup de folklore. Donc, il faut aussi qu'on soit authentique. Des fois, on fait des trucs... pourrait s'en passer. Moi, j'ai eu une expérience par rapport aux bannières. Ou ceux qui savent, je prenais souvent les bannières, je prends un peu moins souvent. Et il y a eu un moment donné où j'ai été suivre un enseignement, entre guillemets, dans un endroit, d'un frère hein, qui a plein de choses, mais qui a eu un comportement, qui a dit des choses qui m'ont profondément rendu pas bien. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement. Marie est témoin. Je suis rentré de cette soirée-là. Donc, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de folklore. Hein. La bannière, c'est un outil. Hein. C'est pas une baguette magique. Donc, je parle moins. Hein. J'ai réalisé ça, mais je pense qu'il y a du folklore dans plein de trucs. Et donc, il y a moyen d'être authentique. Ça ne veut pas dire que je ne prends plus la bannière. Hein. Ça ne veut pas dire que je renie la bannière. Bien au contraire. Ça veut dire que maintenant, quand je la prends, bah, c'est vraiment Dieu qui me demande de la prendre. Et puis c'est de l'obéissance, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Obéir. Alors, ça passe par la repentance, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, parce que ben, j'arrive pas. Hein, en fait, souvent, on est dans la désobéissance, donc on essaye d'obéir. Alors, je ne sais pas si je suis seul à être dans ce cas-là, mais des fois, ça marche dans l'obéissance, puis des fois, pardon, Seigneur. Puis c'est libérateur hein, de savoir que la grâce de Dieu est inépuisable. Je ne sais pas vous, moi ça m'a libéré aussi. Parce que 77 fois, 7 fois, ça fait un paquet de fois. Merci aussi à une traduction de ça que Olivia a apporté. Les lunettes de la vie, comment est-ce que je vois les choses ? Moi, j'ai le choix. Hein. Je me lève le matin, j'ai le choix entre faire la tronche ou dire merci Seigneur, bah, je vais faire du mieux que je peux avec ton aide. Donc, ça m'incombe. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, être authentique. Et maintenant, on va passer. Alors, c'était l'acceptation, là, c'est la grâce, ça se mélange un petit peu. À la liberté de la grâce. Ouais, bon. J'aime bien cette image. Donc, pour parvenir à cette authenticité, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais, moi, qui n'est pas nécessaire dans mon quotidien ? Et j'ai commencé à me... Alors, je change chemin, hein, à me dépouiller, à vivre un dépouillement sain, c'est-à-dire un dépouillement d'enlever des trucs qui ne servent à rien. Alors, malheureusement, j'en ai pris d'autres qui ne servaient à rien. Donc, c'est un processus, hein, je veux dire... On est en construction, ça vous allez voir, je vous spoil un peu, mais c'est pas grave. Et donc j'ai essayé d'enlever toutes les phrases que j'avais entendues au tabernacle en fait, hein. Donc c'est un processus de sanctification, en me disant est-ce que c'est biblique ? Est-ce que ça c'est biblique ? Est-ce que ça c'est biblique ? Est-ce que ça c'est biblique ? Donc j'ai cherché dans la Bible tout ça. Et puis, il y avait aussi des façons de penser que je n'étais pas forcément aligné, je demandais qu'à être ouvert. Donc, voilà. Et ça pourrait se résumer avec ceci. Accepter beaucoup plus de choses. Alors, je n'ai pas retrouvé la photo d'origine, donc je l'ai refaite. Enfin, c'était un dessin humoristique à la base. Donc, je l'ai refait, ce n'est pas grave. Comme on a un budget illimité en effets spéciaux, vous pouvez... apprécier ceci. Que nous dit Jésus ? Ça, on l'a eu avec Isabelle, elle nous l'a rappelé, mais c'est tellement le centre du sujet, quoi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ça, moi, c'est ma pièce centrale là, qui fait que tout va s'imbriquer. Hein ? C'est comme un élément, un noyau intérieur, et tout peut s'imbriquer derrière ça. Parce que si j'aime mon prochain comme moi-même, mais il y a tout là-dedans. Si je fais ça, j'obéis à mon Dieu. Si je fais ça, je m'aime. Parce que je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas. Et si je fais ça, j'aime l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il voit l'ambassadeur de Christ, normalement. Normalement. Donc, il y a tout là-dedans. Et puis, dans le dessin, à l'époque, il y avait quelqu'un qui interrogeait Jésus, puis qui disait, ouais, et puis même les... Alors là, on va s'amuser un petit peu. Même les cathos? Ouais, t'es un peu provoque. Ouais, je commence doucement. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, même les non-chrétiens, ceux qui sont athées, les gens d'une autre religion, les LGBTQ, est-ce qu'on les aime, les LGBTQ? Moi, je m'étais bloqué. Je m'étais dit, oh, à l'église, j'ai l'impression de comprendre que c'est pas forcément bien d'aimer les LGBTQ. Ben, c'était une mauvaise interprétation, puisque c'est Jésus qui dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc mon prochain, qu'il soit d'une orientation A ou d'une orientation B, je m'en fiche, je vais obéir. Moi, je donnais beaucoup de formations, puis à un moment donné, j'avais un groupe que je les avais pendant à peu près 9-10 jours. Et dans la formation, il y avait Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'était un transgenre. C'est un homme qui était devenu une femme. Eh ben, au début, que j'animais, c'était un peu compliqué dans ma tête. Puis après, je fais, ouais, allez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis, en avant, je ne l'ai pas traité différemment. Ce n'est pas à moi de juger, ce n'est pas à moi de faire autre chose que de me comporter avec cette personne-là comme je me comporterais avec n'importe quelle personne. Alors, peut-être que j'ai compris ça vachement tard par rapport à vous. Hein. Peut-être que vous aviez compris ça il y a longtemps et je fais peut-être un dinosaure par rapport à ce que vous avez en tête. Mais je pense, moi, j'étais vachement inquiet quand même sur notre capacité à aimer à un moment donné, dans l'église en général. Hein. Moi, je croise un monsieur le matin. Maxime l'a croisé l'autre fois avec moi. Je croise un monsieur le matin, puis une fois ou deux, je l'ai laissé passer parce qu'il avait une poussette avec deux enfants, tout ça. Puis des fois, les trottoirs sont un peu étroits. C'est un grand monsieur sénégalais. Puis il commence à me dire, ah, oh, vous êtes gentil, vous me laissez passer, machin. Puis il commence à me taper la causette. Puis tous les matins, quand je le croise, il me dit, bonjour, comment ça va? Merci pour votre gentillesse. Et ce monsieur, il est musulman. Alors moi, je fais quoi avec ça? Ben, je l'aime, hein. Il est super gentil. Puis peut-être que... Elle se dit, ah bah, elle est belle la lumière chez lui. C'est pas à moi d'agir, on est d'accord. Moi, je dois faire, je dois aimer. C'est à Dieu que ça appartient le reste. Si je peux témoigner, gloire à Dieu. Et donc, Jésus répond, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et ça, c'était un des meilleurs enseignements de ma vie, quoi, ce dessin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, hey, même les machins. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je viens de dire? Ben, à une époque, c'était la couleur de peau hein, qui était l'ennemi. Hein. On est d'accord? Aujourd'hui, bon, ben, c'est l'LGBT. Bon. Vous avez des gens qui disent que, merci Maxime, les protestants, c'est le diable. On est tous le combat de quelqu'un dans sa compréhension des choses. Mais je pense que ton prochain, c'est tout le monde. Il y a un cœur qui bat, il y a Dieu qui a donné la vie. Pareil, je suis pareil. Des allumettes, des fourmis, même, je devrais dire. Ce qu'on vit. Ah, c'est ceux qui sont en face. Vous les reconnaissez? On a des super... Je rigole avec Hollywood depuis tout à l'heure, mais aujourd'hui, on a des super films qui sortent avec des super décors, des super costumes. On a The Chosen et tout. C'est quand même formidable de pouvoir se rendre compte aussi de la façon dont vivaient les gens à cette époque-là. Donc, ça nous amène une autre perspective, en fait. Donc, moi, je condamnais beaucoup avant. Et ça, c'est le problème de ma vie d'avant chrétien. Donc, c'est une casserole que je traîne encore par moment. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais probablement le pharisien de quelqu'un. En condamnant. Et donc, mon idée, c'est que je ne veux surtout pas devenir le pharisien d'un collègue de travail qui pourrait penser que, bah, à cause de moi, la religion, c'est complètement nul. Oui, ah oui, bah, il est 11h26. Non, j'ai bientôt fini. Ils disent tous ça. Hein. Donc, de qui suis-je le pharisien? Alors là, je marche sur des œufs, mais il y a même des chrétiens, j'avais entendu dire, par exemple, une fois, c'est oh, nous, on ne mange pas de boulin, hein, parce que le boulin, il y a du sang. Puis la parole, elle dit bah, faut pas manger le sang. Bon, moi, j'étais un peu étonné. Puis après, je m'étais du coup dit mais je peux plus manger de kebab alors, parce que c'est halal. Puis j'étais étonné, parce que c'est bon, le kebab. Puis après, il y a une autre parole qui dit qu'on rend gloire à Dieu pour ce qu'on mange. Donc, alléluia. Alors moi, je marche sur des œufs parce que la parole dit aussi, je ne dois pas vous choquer avec ma propre liberté. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, hein. Juste, c'est mon chemin. Il y a aussi des paroles, des fois, qu'on prononce. Il y a eu un tsunami il n'y a pas longtemps. Vous avez entendu parler peut-être, hein, toute la planète, enfin une grosse partie de la planète a mis en état d'alerte les gens. Il y a des milliers de gens qui se sont déplacés, mais pas nous. Nous, on était tranquilles, il n'y a pas la mer à côté, ça ne nous concerne pas. C'est dingue, hein, comme quoi un truc à un endroit sur la planète peut être un énorme problème, alors que nous, ça nous concerne de loin. Bah, c'est un peu finalement. Des fois, on dit quelque chose, on donne une parole, puis on ne se rend pas compte que ça peut blesser. Moi, j'aime beaucoup ce dessin, là, encore Alain, Oderset, l'autre. La parole peut blesser, peut taper, peut faire mal. Je crois qu'il n'y a jamais vu une meilleure illustration de cette langue qui devient une main et qui tape quelqu'un. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. C'est pas de moi, c'est Dieu. Mais la langue des sages apporte la guérison. Ah, les sages, ceux qui sont plongés dans la parole. Et donc, la conclusion de tout ça, bah, c'est le pardon, en fait. Parce que moi, je peux blesser, je peux être blessé. La conclusion du tu aimeras ton prochain comme toi-même, ben, c'est ça, en fait. C'est le pardon. Parce que si on me fait du mal, bah, moi, il faut que je pardonne. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin de Jésus qui nous dit de ne pas rendre, de tendre l'autre joue. C'est ça. Donc, cherchez donc à avoir les dons les plus grands. Mais ça, c'est juste avant le verset de l'amour, 1 Corinthiens 13, 13, 1 Corinthiens 12, 31. Mais maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. L'amour. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un vous a fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un dit du mal de toi, si quelqu'un dit quelque chose qui te blesse et qui ne s'en rend absolument pas compte, parce que ce n'est pas du tout sa pensée, mais toi, ça te blesse, parce que tu as vécu des trucs dans ta vie qui font que ça te blesse. C'est pas grave. C'est dur d'en arriver là, mais c'est pas grave. Faut. Et Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Vous voyez le lien avec l'amour? L'œil, il ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. Hein. Parce que l'œil, il va dire, on va là-bas. Puis le pied, il faut qu'il soit d'accord pour y aller. C'est le corps, c'est nous, c'est le puzzle. Alors. La fourmi et la météorite. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est important, parce que c'est une des images que Dieu m'a données au début pour que je comprenne le rapport qu'il y avait entre les gens qui croyaient en Dieu. Je suis une fourmi sur une météorite. Je vois des trucs, je vois des crevasses, je parcours des chemins. Mais peut-être que sur les dizaines et les dizaines de kilomètres que je vais faire dans ma vie de fourmi sur cette météorite qui, disons, fait la ville de Lyon, par exemple, peut-être qu'il y a une autre fourmi qui va faire plein d'autres chemins, qui va avoir d'autres crevasses, d'autres aspérités. Puis on va se croiser, puis on va me dire, ben moi, j'ai parcouru Dieu. C'est ça, Dieu. Cette crevasse-là, et c'est cette crevasse-là. Moi, je dis, bah, moi j'ai parcouru Dieu aussi, mais je n'ai pas vu tes crevasses, j'ai vu ces autres crevasses. J'ai vu telle chose dans la météorite. Pourtant, on est sur le même Dieu. Hein. Mais on n'a pas vu la même chose. Pourtant, on est sur le même Dieu. Ça m'a beaucoup aidé cette image. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça m'a beaucoup aidé et je la médite encore régulièrement. Donc, on est des fourmis qui se rencontreront parfois et qui devront entendre ce que l'autre a vu. Et donc, nous sommes un corps. Donc, il va falloir qu'on apprenne en tant que fourmi à s'assembler, à travailler ensemble, parce que la parole nous dit que la fourmi, elle est sage quand même, il me semble. Hein. Normalement. Je crois que c'est un des seuls trucs que je n'ai pas réussi à reprendre. Pas eu le temps. Alors, une pièce de puzzle, c'est quoi ? Bah, au début, c'est un petit rond. C'est moi, ça. C'est moi, je suis né. Et dans le monde, je suis un petit rond. Puis après, j'ai des bosses dans la vie. Parce que la vie, elle fait des bosses. Donc, il y a des trucs qui sortent, des aspérités. Puis, des choses qui deviennent un peu compliquées. Ça fait que je deviens une pièce de puzzle, en fait, grâce à tous ces chocs, grâce à toutes ces aventures de ma vie. Et cette pièce de puzzle... elle doit devenir un membre du corps. Donc, on est plein de pièces de puzzle ensemble et puis il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais ça, c'est avant que Dieu se révèle dans ma vie. Maintenant que Dieu se révèle dans ma vie, hop, on n'a pas la super image. Ah, on n'a pas l'animation, zut. Normalement, vous imaginez une pièce de puzzle colorée. Quand la couleur rentre dans la pièce de puzzle, c'est que Dieu rentre dans la vie de la personne. Ah, elle est là. Ah oui, non, c'est bon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Non, j'ai bon. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Les pièces de puzzle sont sans Dieu parce qu'elles sont toutes foncées comme ça. D'accord ? On n'a pas Dieu en nous. Et à un moment donné, Dieu se révèle dans ma vie. Donc à un moment donné, je passe dans ce statut-là. Le Dieu habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Et donc le corps, il va falloir qu'il se rapproche des autres. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi, je pense, j'ai demandé, ces images-là sont magnifiquement générées par des IA. Je n'ai pas du tout réussi à lui faire ce que je voulais, donc j'ai fait ce que je pouvais. Et donc dans ce que je pouvais, il y a ça, et c'est plutôt intéressant, c'est qu'on ait des pièces de puzzle colorées qui avons des relations avec des frères et des sœurs, puisqu'ils ont aussi Dieu en eux, mais on a aussi des relations... forte, sincère, de l'amour avec des gens qui n'ont pas Dieu en eux. C'est vrai. Et on doit être unis pour qu'on puisse justement se répandre vers les pièces qui ne sont pas encore avec Dieu en eux. Et j'ai noté quelque chose qui m'intéressait, c'était, qui me parlait, c'était l'amour philéo et l'amour agapé. Vous savez, quand Pierre est sur la plage avec Jésus à la fin de l'évangile de Jean, il y a une discussion entre Jésus et Pierre qui lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Et donc, il y a un échange. Et quand on traduit, il y a « Est-ce que tu m'agapé ?» Il répond « Je te filéo. Est-ce que tu m'aimes d'un amour sacrificiel ? Tu es prêt à te donner ma vie ?» Et il dit « Je t'aime comme un très, très bon ami. Est-ce que je donnerai ma vie pour toi ?» Enfin, et donc, le but, c'est qu'on arrive à tendre vers l'amour agapé entre nous. Je me prêche à moi-même. Hein. C'est pas facile. Hein. Mais aussi à ce qu'on ait un équilibre entre l'amour philéo et l'amour agapé. Parce que si on n'a que l'amour agapé, justement, on va à nouveau se couper du monde, hein, je pense. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait un équilibre. Et donc, ma conclusion, on est en chantier. Donc moi, j'aime bien me voir comme quelqu'un en construction. Il y a des morceaux qui s'achèvent, il y a des morceaux qui ont eu leur place, il y a des choses qui ont été utiles à un moment donné, puis qu'on va enlever, qu'on va recasser, qu'on va... Voilà. Mais on est en chantier tout au long de notre vie. C'est Dieu le grand régisseur, le grand bâtisseur, le grand chef de chantier. Et c'est lui qui nous aide dans tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez pris des trucs qui étaient bons. Et puis, je vous laisse avec tout ça. Mais je pense qu'on est tous en chantier, qu'il ne faut pas... Du moins qu'on aime Dieu, qu'on essaie de faire notre mieux, qu'on est dans la repentance régulière et qu'on avance avec Dieu, il faut accepter la grâce. La grâce a été un objet de scandale pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Et ça les a perdus. Donc merci beaucoup Seigneur parce que tu m'as donné l'opportunité de partager ce qu'il y avait sur mon cœur à mes frères et sœurs et je te prie de bénir tout à chacun, que nous puissions maintenant nous approprier tes paroles qui nous demandent d'aimer notre prochain, qui nous demandent d'aller dans la simplicité, dans l'amour, qui nous demandent de faire ce que tu nous as demandé de faire, sel et lumière. Seigneur, accompagne chacun, bénis les personnes qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et puis, Seigneur, que ta volonté se fasse à chaque instant de nos vies, Seigneur. Et merci pour tout. Merci pour tout.